Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Comment vieillir sur le territoire de Dieulefit-Bourdeau? Selon l'INSEE, en 2018, près de 40% des habitants de la communauté de communes ont plus de 60 ans. Des aînés sont invités depuis plusieurs années à s'exprimer sur cette question au travers de groupes de travail. Notre territoire expérimente une charte des aînés signée par la communauté de communes et des structures médico-sociales. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Catherine Boglin, travailleuse sociale à la Mutualité sociale agricole, la MSA, structure à l'initiative de cette charte. Catherine Boglin, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, quel est l'esprit initial de cette charte des aînés ?
Alors, cette charte des aînés, elle a pour vocation de mettre en lien les énergies, les volontés, les compétences sur un territoire bien défini pour penser des actions, alors principalement dans le champ social, hein, puisque mutualité sociale agricole, pour en fait, avec la finalité de bien vivre tout simplement sur le territoire. Voilà.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action qui a été menée dans le cadre de cette charte ?
Oui, alors il y a des actions qu'on appelle de prévention qui ont été conduites effectivement sur le territoire. La prévention, c'est en fait porter un regard sur son mode de vie avec la finalité et avec l'objectif de prendre soin de soi, de sa santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit mentale. Alors le champ est grand, hein, bien entendu, ça peut aller de comment je me nourris bien, comment je fais en sorte de maintenir ma mémoire, et tout ça bien entendu dans un climat de convivialité, de plaisir, parce que c'est aussi un élément important de la prévention, et puis avec en fond effectivement le lien avec les autres, qui reste quand même quelque chose de très important.
Vous animez aussi un certain nombre à la MSA d'ateliers. Qu'est-ce qui se passe quand on vient dans un atelier mémoire ?
Alors, il n'y a pas que la MSA hein, qui développe ce type d'atelier. La particularité de la MSA peut-être, c'est de faire en sorte que l'animation, elle soit assurée par un retraité qui lui-même a participé à titre personnel et volontaire à ce type d'atelier et qui a choisi de dispenser ce message-là auprès de ses pairs, P-A-I-R-S. Hein, on sait qu'on est toujours bien mieux entendu par ceux qui vivent la même chose que soi.
Oui.
Et donc, ça se passe avec d'abord une proposition à toutes les personnes, quel que soit leur régime d'ailleurs social, hein, qu'ils soient de la MSA ou autre, donc sur un territoire, qui des personnes retraitées, de participer aux 10 séances d'atelier mémoire où le programme est quand même relativement bien défini.
Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de dispositif sur ces ateliers mémoire ? Et il me semble qu'il y a une psychologue qui vient vous aider également.
Alors, oui. Dans le déroulé, donc, il y a une réunion de présentation. Donc, les personnes vont venir hein, d'horizons et de communes différentes, d'ailleurs. On présente ce que c'est. Et à l'issue de cette présentation du programme, avec des petits exercices, bien sûr, hein, parce qu'il faut que ce soit un peu alléchant aussi, les personnes s'inscrivent. Une fois inscrites, effectivement, afin de veiller à ce que chacun soit pas mis en difficulté durant ce temps des 10 séances, il y aura un entretien individuel avec une professionnelle de santé qui utilise un test mémoire, hein, c'est des tests officiels, hein, pour justement voir s'il n'y a pas de difficultés majeures. C'est très rare parce que déjà les gens qui se mobilisent pour venir à ce type d'atelier, déjà ils sont intéressés, ils sont curieux de savoir ce que c'est et ils sont, ils n'ont pas de problème majeur parce que maintenant c'est quand même un dépistage qui se fait relativement en amont, les problématiques au niveau du cognitif. Hein.
Détecter le plus jeune possible.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça que c'est le volet vraiment prévention de l'action de la charte aussi sur la mémoire.
Voilà, on est sur le champ de la prévention. Alors l'idée, bien entendu, c'est qu'on ne s'en arrête pas là après les ateliers. C'est que s'il y a une volonté du groupe à se retrouver autour de... d'une activité à partager, ou ça, c'est tout à fait possible.
Donc et ça s'est fait. À la volonté des gens aussi impliqués.
Oui, et durant le temps de la charte, la MSA, elle va soutenir effectivement la mise en route de ce type d'atelier. Ça s'est passé par exemple suite à un atelier mémoire, hein, du coup, qui a eu lieu sur Dieu le fit. Où en fait une des personnes, enfin même plusieurs, avaient très envie de se retrouver pour partager ensemble des activités, des exercices mémoire. Et en fait, donc une d'entre elles a pris plus ou moins l'initiative. Et ça se passe à la Bégude, hein, mais je sais qu'il y a des personnes de Dieu le fit. Donc le petit groupe se retrouve et je crois qu'ils ont même ouvert un deuxième temps où c'est un temps jeu.
Voilà, là, convivial, GX. Informel.
Voilà, tout à fait. Mais avec l'idée toujours de stimuler la mémoire, de donner l'envie d'aller lire, de découvrir, etc. En fait, c'est tout ça qui est important.
Il n'y a pas d'âge pour s'amuser.
Il n'y a pas d'âge pour s'amuser, tout à fait.
On peut revenir aussi à la genèse de cette charte. Quelles sont les préoccupations, enfin les principales préoccupations des personnes âgées de notre territoire ?
Je pense à deux choses hein, qui font partie du diagnostic. Une qui concernait l'habitat, à savoir réfléchir à anticiper son vieillissement, par conséquent son lieu de vie ou son choix de lieu de vie. Si je perds en autonomie, qu'est-ce qui s'offre à moi comme type d'habitat possible et de quoi j'ai envie ? Parce que c'est ça aussi qui est important.
Oui, la question des EHPAD aussi qui se pose, qui est très anxiogène.
Tout à fait, tout à fait. Ce qui ressort de façon générale, c'est que les gens ont envie de rester chez eux le plus longtemps possible. Que certains sont dans un environnement que peut-être d'autres trouveraient pas forcément adapté ou qui peut à long terme peut-être les mettre en danger. Et alors, dans le cadre de la charte, c'est vrai que c'est ressorti, ça. C'est-à-dire que le petit groupe de travail qui a dit « on a envie de réfléchir sur l'habitat », c'était aussi des personnes elles-mêmes retraitées qui s'interrogeaient et qui se sont dit « voilà ». Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il existe comme mode d'habitat divers. Donc, enfin, si je continue jusqu'au bout de la démarche qui a été faite et qui est toujours en cours de réflexion quand même, donc on a été voir et on a rencontré, au niveau de ce petit groupe un peu élargi, on a rencontré des structures qui ont des modes d'habitat divers et variés.
Oui, habitat participatif, par exemple, colocation.
Par exemple, ou ce qu'on appelle la DMR bienveillante, c'est-à-dire vous avez pas une maîtresse de maison, mais quelqu'un qui passe tous les jours, voir comment ça va. Ça, c'était sur Anneyron. Les MARPA, donc comme à Rémusa, par exemple, où effectivement, chacun a son logement indépendant. Mais il y a une vie commune qui est très importante avec la possibilité, bien entendu, en cas de difficulté, de faire appel au maître de maison, à maîtresse de maison. Et l'idée, c'était, et là, ce Covid est passé par là, c'était de faire une journée, un forum, une journée ouverte au public, avec l'intervention d'un sociologue qu'on attend toujours. Peut-être viendra-t-il.
C'est une perche.
Ah oui, alors non seulement c'est une perche, mais on retravaille là-dessus très prochainement avec le groupe, puisque c'est du partenariat très important avec la communauté de communes aussi. Bon, je crois qu'en quelques années aussi, cette question de comment je me vois vieillir et où, je pense que ça commence à se poser et à habiter un peu les consciences. Et c'est pas rien.
Oui, et d'autant plus avec notamment, là, on a tout récemment le scandale d'Orpea, donc des EHPAD, la maltraitance, on en parle très souvent.
C'est
vrai que forcément, c'est des choses qu'on a tous en tête et on est tous plus ou moins concernés par le vieillissement. Et d'ailleurs, certaines actions de la charte sont aussi tournées vers les aidants. Et aidantes.
Oui, il y a eu un gros travail. Alors,
pour rappel, ça... les aidants d'ailleurs.
Oui, les aidants familiaux.
Les aidants familiaux.
Les aidants professionnels ont aussi leur part, je pense, de difficultés et de besoins aussi de soutien et de reconnaissance. Mais ça, c'est un autre sujet, éminemment politique, n'est-ce pas ?
C'est vous qui le dites ?
C'est moi qui le dis, oui. Mais d'ailleurs, quand ils peuvent participer à ce qu'on propose, ils sont présents. Je crois qu'il y a vraiment une volonté de tous que le service soit rendu dans les meilleures conditions. avec toute la reconnaissance derrière du professionnel qui est nécessaire. Mais les aidants familiaux...
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est qu'un aidant ?
Un aidant, alors, une aidant. En fait, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche. Ça peut être un conjoint, un enfant, un parent, un voisin dont il s'occupe régulièrement. Et, et la personne en question, aidée, pour le coup, donc, est en perte d'autonomie. Donc, c'est aussi insidieux. Ça arrive petit à petit, par exemple, dans un couple. Hein, petit à petit, il y a malheureusement un diagnostic de pathologie neurodégénérative qui arrive. Et puis, ça s'amplifie. Et l'aidant, c'est le conjoint. Donc, il est là. Donc, il continue. Et puis, il en fait toujours un peu plus, etc. Bon, il y a quand même des aides qui existent au niveau du département en termes d'aide à domicile, l'APA, etc. Allocation aides, personnalisée d'autonomie.
Oui, des aides financières aussi.
D'accord. Donc, sur le territoire. Alors, cette démarche qu'on a faite, il faut quand même aussi rendre à César ce qui est à César, à savoir que le département, à travers le CLIC et puis maintenant le CAP...
CLIC, Centre local d'information et de coordination en faveur des personnes âgées.
Voilà. Et c'est la coordinatrice qui s'appelle Michèle Campbell. Je la cite parce que nous sommes un binôme très très présent sur le territoire. Elle y était avant moi à travailler avec un groupe d'acteurs locaux. Et on travaille dans la même direction et même avec les personnes. Donc, ça a été effectivement de se dire, comment toucher ces personnes qui peut-être ne savent même pas elles-mêmes qu'elles sont aidantes. Parce que là, sur le champ de la prévention, il y a à faire aussi. Hein. Bon, ce qui existe sur le territoire, c'est un groupe de parole animé par une neuropsychologue qui s'appelle Annie Mercailloux. Mais le constat qui était fait et qui est toujours un petit peu vrai, c'est que y a peu de personnes et que alors qu'il y a énormément de personnes sur le territoire qui sont en situation d'aidant. Donc ce qu'il avait été décidé, c'est de prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas, et d'aller au milieu de la foule. Et la foule ici, c'est les jours de marché en l'occurrence.
Le marché, voilà. Le vendredi.
Donc
le matin,
nous avons élaboré un stand. Alors ça, c'est avec tout le groupe. Hein.
Alors. Et ça a été pensé, ça a été une proposition aussi
collective.
Des gens.
Oui, collective. Voilà. Donc nous sommes allés sur les trois bourgs, on va dire, du territoire de la communauté de communes, hein, Dieulefi, Bourdeau et la Bégude. Nous avons fait au minimum 2 marchés. Hein. C'était entre juin et août 2021. Et c'était très fort aussi ce qu'on a vécu. Je crois que ça crée du lien. Alors on va dire qu'on a été quelques salariés, donc j'en fais partie. Mais sinon, il y a eu quand même 13 bénévoles qui ont voulu être présents un jour sur le marché. Et puis là, on allait au-devant des personnes. Alors, on en a fait un bilan. On a touché à peu près 100 personnes à qui on a donné un flyer, qu'on a pris des coordonnées. Et en fait, mais tout le monde, à un moment donné, soit connaît quelqu'un qui est en situation d'aidant, soit l'est lui-même, soit l'a été. Donc, c'était très, très intéressant et très fort.
Oui, on estime qu'un Français sur 5 serait aidant ou aidante.
Tout à fait.
C'est vrai que c'est une très large part de notre population.
Et
c'est toujours une estimation en plus parce qu'il y en a beaucoup qui s'ignorent du coup et qui sont pas déclarés comme tels.
Absolument, voilà. Absolument. Et du coup, alors la suite de ça, ça a été la projection sur les trois lieux aussi, Bourdeau, Dieulefi, et avec l'invitation des personnes qui avaient laissé leurs coordonnées, plus les personnes qui étaient bénéficiaires de l'APA, enfin les aidants. Il y en a quand même, je crois que Michèle, elle en avait recensé 200 sur le territoire, c'est énorme, hein. Et donc invité à participer à une réunion où était projeté le film tourné dans les baronnies, tout récent, qui s'appelle « Être aidant, parlons-en ». Donc, il y a eu ces réunions avec aussi la volonté et un travail commun avec aussi des bénévoles ici, de recueil de la parole des personnes, de leurs besoins, de ce qui va bien, de ce qui ne va pas, etc.
Que ce soit la charte ou au travers des ateliers ou des animations que vous faites, donc la MSA a vraiment été attentive à avoir la contribution des premières personnes concernées. Pourquoi cela était-il aussi important pour la MSA ?
Alors, c'est un peu dans l'histoire et dans ses gènes.
Peut-être en quelques mots, alors. Quel est en tout cas l'esprit peut-être de la MSA ?
Alors, c'est vraiment d'être au cœur des territoires. Je crois que c'est la MSA, elle a toujours eu depuis toujours ce souci-là. D'ailleurs, nos actions de prévention ont donne priorité aux territoires ruraux. On ne va pas les développer. Il y en a d'autres qui le font aussi bien que nous, avec d'autres outils. Hein. On ne va pas les développer, par exemple, à Montélimar ou dans des zones urbaines. Oui. Voilà. Notre choix, c'est le territoire rural.
Parce que, historiquement, mutualité sociale agricole.
Oui, et puis même s'il y a la particularité agricole, la volonté, c'est que ça ne se limite pas à la population agricole. C'est-à-dire que nos agriculteurs, nos ressortissants agricoles, ils vivent au milieu d'une population sur un territoire défini et on ne peut pas vivre les uns sans les autres.
Ils le nourrissent.
Donc c'est important, ils le nourrissent.
Donc il y a d'autres organismes impliqués, donc vous en parliez tout à l'heure du département, donc oui. Sur cette charte. Quels sont les organismes signataires de cette charte ?
Être signataire de la charte, ça signifiait donner son soutien moral, j'allais dire. Hein. On ne va pas parler de sous, sonnant et trébuchant, ce n'était pas le but. L'idée, c'était de dire, on est partenaires, on avance ensemble et on valide. Voilà. Donc effectivement, le département a signé la charte, la communauté de communes a signé la charte. Et les services d'aide à domicile,
ADMR Bourdeau,
ADMR La Bégude et l'Arbre Vert, ainsi que l'association familiale de Dieulefit, plus une association naissante qui est devenue espace de vie sociale qui s'appelle le Lien 26.
Oui, voilà. Qui travaille notamment sur les questions de numérique.
La charte, elle a une petite enveloppe budgétaire qui est plutôt incitative pour que d'autres financements arrivent. Mais dans ce cadre-là, en l'occurrence, elle a financé des mallettes numériques dans l'objectif que le Lien 26, et il l'a déjà fait un petit peu, hein, se déplace pour aller former les retraités et puis toute population numérique.
Oui, voilà. Parce que c'est aussi un enjeu de lien social et de lien au monde pour les personnes de pouvoir être connectées au numérique et pour les démarches administratives aussi, j'imagine.
Absolument. Et puis le constat est fait et ce n'est pas surprenant. Il y a des gens qui étaient éloignés déjà de l'administratif papier, en partie, en l'occurrence, des personnes âgées. Et je me permets de citer cette anecdote d'une personne pendant la période de confinement où on a voulu garder le lien au niveau de la charte aussi. Alors moi, j'ai passé des coups de fil. Il y a une personne, en l'occurrence, qui m'a dit « Écoute, je me suis vraiment mise à la tablette parce que si je voulais être en lien avec mes enfants et mes petits-enfants, il n'y avait qu'un moyen, c'était le virtuel. » Et du coup, elle dit « Maintenant, j'avoue, autant je ne me serais vraiment pas intéressée, autant là, je me suis mise voilà, à 75 ans, hein, ce n'est pas un souci. »
Tout à l'heure, vous parliez aussi donc, qu'il y avait un petit financement de la part de la charte. À combien s'élève cette enveloppe ?
Oh ben je peux vous le dire, hein, oui, c'est 20 000 euros. Alors, il y a le département qui a été très soutenant sur une action aussi, la communauté de communes, les participations des personnes sur certaines actions. Voilà, je ne sais plus. Après, ce qu'il faut dire aussi dans les financements, c'est que la communauté de communes qui choisit ou qui décide de mettre à disposition les locaux dans toutes les communes, enfin c'est les maires.
C'est un soutien
incroyable, oui. Et puis qui assure l'ouverture, l'accueil de la salle, etc. Je crois que ça se traduit aussi sous cette forme-là. Mm. C'est vrai que quand on fait un budget, on chiffre ça, mine de rien, et c'est drôlement important.
Oui, donc, voilà. D'où l'intérêt aussi au final des organismes signataires de la charte. C'est pas seulement c'est un soutien moral, mais
oui,
qui se traduit comme ça aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
La charte des aînés était prévue donc initialement pour 3 ans, trois ans et demi avec le Covid.
Oui.
Nous arrivons au terme de cette période. Quel avenir voyez-vous pour les actions en faveur des personnes âgées sur notre territoire ?
Alors moi, à mon avis, il y a une vraie dynamique qui existe. Il y a une vraie volonté dans toutes les personnes qui œuvrent. Voilà. Après, la question se pose de quel relais identifier pour porter ça. La dynamique elle y est, la volonté elle y est. Je pense qu'il va se faire encore plein de choses.
Les objectifs de la charte ont été remplis alors à ce niveau-là, comme c'était vraiment votre objectif premier ?
Oui, alors
cette dynamique.
On peut le dire, hein, c'est-à-dire mettre sensibiliser et puis mettre autour de la table tous les acteurs qui ont envie d'œuvrer effectivement pour les seniors, hein, mais il y a des choses qui sont commencées, qui sont à terminer, intervenir auprès de la population de retraités, ce n'est pas aussi que se soucier de leur santé de bien nourrir, du bien dormir, etc. C'est aussi valoriser aussi dans leur parcours de vie ce qui peut être positif, ce qui les a animés, ce qui les passionne, ce qu'ils savent faire. Voilà, c'est du savoir-faire, du savoir-faire, du savoir-être, des passions. Voilà, c'est tout ça.
Parce qu'ils ont des savoirs aussi.
Bien sûr, et ils ont des savoirs. Et pourquoi pas aussi les, à la limite, les, comment on va dire, les conserver sur un support qui va rester. Donc, en l'occurrence, l'idée, c'est effectivement le support film, mais peut-être pas que. Donc, l'idée, ça a été effectivement de proposer aux personnes de 70 ans et plus de se manifester si elles étaient intéressées pour être interviewées, filmées ou photographiées, ou etc. Enfin, fournir du matériau, en tous les cas, qui sera ça, qui sera vraiment révélateur de ce que, d'un autre côté, de bien vivre, enfin de bien vivre tout simplement, hein, puisque c'est bien vivre. Hein. Donc on en est là, il y a eu quand même 34 retours de personnes qui sont intéressées. Et puis, on fait appel effectivement à un réalisateur ou une réalisatrice qui viendra nous mettre ça en film. Donc, c'est un projet qui devrait voir son aboutissement fin septembre, octobre. Voilà.
Voilà, et donc, c'est toujours dans cette idée de conserver aussi la mémoire et les savoirs des personnes
qui habitent un territoire. Et que ce soit un support aussi de discussion, de débat. Toutes générations confondues aussi, peut-être. Hein. Voilà.
Oui, ce qui me fait déboucher justement sur cette question de quel est aussi notre souhait et vous, quel est votre souhait quant à la place accordée à nos aînés dans notre société ?
Oui, c'est une très bonne question et ça me fait tout de suite penser à ce que à une interview très récente d'un sociologue que j'ai peut-être déjà nommé qui s'appelle Serge Guérin et autour de la question lié à l'âge de départ à la retraite et qui en fait on parlait de l'utilité des vieux en disant mais si on chiffrait et si on mettait en évidence l'investissement des retraités
sur le terrain
dans
bénévole.
La vie sociale sur le terrain du bénévolat, de l'engagement, je pense qu'on se poserait peut-être même plus cette question-là. Ils ont leur place, ils ont la place. Oui. En prenant la retraite, en vieillissant, on a sa place, on peut apporter au monde, on peut apporter à la société, on peut apporter aux autres. Et juste, j'en termine par ça, parce que dans la charte, en fait, 95% des personnes qui m'accompagnent à leur façon, donc dans la réalisation de ces actions, toutes ces réflexions, etc., ce sont des personnes qui sont retraitées. Donc, des personnes qui apportent beaucoup aux autres. D'une culture à l'autre, la place des aînés n'est pas forcément la même. Et je pense qu'on ne doit pas oublier. De toute façon, on est tous appelés à vieillir, si possible, le plus longtemps possible. Et je pense qu'il faut qu'on prenne soin de les uns des autres.
Oui, de valoriser tout
quel
âge.
Quel que soit l'âge qu'on a. Ouais, tout à fait.
Perspective en tout cas inspirante pour nous toutes et tous qui sommes concernés par le vieillissement. Catherine Vauglin, merci.
Un grand merci à vous de m'avoir accueillie.
Vous êtes travailleuse sociale à la MSA et êtes venue nous parler des actions en faveur des personnes âgées et leurs aidants et aidantes sur le territoire d'Ulfy-Bourdeau. Bonne journée.
Merci, vous aussi. Au plaisir.
Radiola.media